Permettre un réarmement démographique, des mots prononcés en début d'année par le président de la République Emmanuel Macron, qui appelait à relancer la natalité en France. Mais sommes-nous déjà armés, justement, pour faire face à une natalité qui augmenterait, alors qu'aujourd'hui en Ile-de-France, au mieux 2 à 3 enfants sur 10 ne peuvent être accueillis, au pire, comme c'est le cas en Seine-Saint-Denis, 7 enfants sur 10 ne peuvent bénéficier d'un mode d'accueil quel qu'il soit. À l'origine du problème, une pénurie de personnel dans le secteur de la puériculture, à la fois parmi les fonctionnaires, mais aussi dans le secteur privé. Des métiers mal rémunérés, difficiles et à très haute responsabilité puisque leur sont confiés ce que les parents ont de plus cher. Conséquence, de nombreux berceaux fermés et des parents, plus souvent des femmes, qui jonglent entre leur carrière professionnelle et la garde de leur enfant. Quel dispositif activer pour enrayer cette crise du monde de la petite enfance? Ce sujet, nous allons l'évoquer avec nos invités. Paul Bazin, premier vice-président du département du Val-de-Marne en charge de la solidarité et de la petite enfance. Nathalie Casso-Vicarini, fondatrice et déléguée générale de l'association Ensemble pour la petite enfance, vice-présidente du Conseil français des associations pour les droits de l'enfant et co-auteur avec le docteur Boris Cyrulnik de Là où tout commence. C'est aux éditions Le Cherche Midi. Nous serons aussi en direct avec Mohamed Mokrani, directeur des ressources humaines dans le secteur privé pour l'entreprise Les Petits Chaperons Rouges, qui a lancé un institut de formation. Comment accueillir tous les enfants franciliens? C'est le nouveau sujet d'Île-de-France Politique et c'est parti. Bonsoir à tous les deux. Merci, merci d'être les invités d'Île-de-France Politique. Nous allons, si vous le voulez bien, tout d'abord poser le constat justement de ce manque de berceaux en Île-de-France. Quelle est la réalité pour les parents franciliens? Et puis on s'intéressera aussi aux racines du problème, aux causes, notamment le plus important, la pénurie de personnel en puériculture. La natalité en Île-de-France, elle est légèrement plus élevée que la moyenne nationale, mais elle reste assez basse tout de même. Pourquoi est-ce que, avec une natalité aussi basse, l'accueil ne suit pas?
Alors, il y a plusieurs raisons à ce constat qui est assez français, mais qui existe également dans d'autres pays. Déjà, valoriser les métiers de la petite enfance, se dire que, comme vous l'avez énoncé tout à l'heure, c'est un métier à très haute valeur ajoutée parce que les enfants sont la société de demain. Et mettre en place des conditions favorables pour exercer son métier, c'est vraiment ce qui est attendu dans la nouvelle convention d'objectifs de la Caisse nationale des allocations familiales, c'est-à-dire que les professionnels soient considérés comme des professionnels compétents et qui reçoivent des formations à la hauteur de leurs compétences attendues, parce qu'un bébé, dans ses 1000 premiers jours, il va développer son plein potentiel. On sait que le cerveau est en train de se... c'est un feu d'artifice dans le cerveau à chaque expérience que fait un bébé, et il a besoin de professionnels qui sont très avertis de son développement et qui peuvent les accompagner dans les meilleures conditions. Et puis la troisième raison, c'est aussi répartir l'offre sur le territoire, parce qu'il y a encore des zones blanches en France et on a besoin de professionnels sur tous les territoires. Mais surtout parler de ce métier de façon positive et de susciter des vocations, parce que les professionnels ont besoin d'être bien considérés. Et de faire leur métier dans des bonnes conditions, parce qu'on va agir sur le milieu, l'État agit sur le milieu qui agit sur l'enfant, et on a tout intérêt à ce que notre société soit bien accompagnée pour demain.
On va reparler justement largement de ces métiers. Quelle est la situation pour les parents dans le Val-de-Marne? Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes pour quel taux d'acceptation?
Alors, il y a effectivement beaucoup de demandes. Vous avez rappelé les taux de natalité qui sont importants. Dans le département du Val-de-Marne, fait le choix d'avoir une politique extrêmement volontariste depuis des décennies pour l'accueil des jeunes enfants en matière de crèches départementales. On a 81 crèches départementales, c'est plus que tout département français. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres modes de garde également, et on encourage fortement l'exercice aussi de l'activité d'assistante maternelle, puisqu'on fait des formations pour les assistantes maternelles. On les accompagne dans leur activité quotidienne avec les services de la protection maternelle et infantile. Ces efforts, malgré cet effort extrêmement volontariste du département, 81 crèches, 3300 bébés accueillis au moment où on se parle, c'est effectivement pas encore suffisant pour couvrir l'ensemble de la demande des parents. Et c'est pour ça qu'on continue à investir dans le domaine de la petite enfance, puisque je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. C'est une politique fondamentale. pas seulement pour que les enfants aient un mode de garde, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, mais pour que les enfants puissent être accueillis dans les meilleures conditions pour participer à leur développement. Il se passe tellement de choses dans les fameux 1000 premiers jours que c'est très important qu'il y ait une vraie qualité d'accueil. Et c'est ce qu'on poursuit avec le président Olivier Capitanio comme politique. Une vraie qualité d'accueil, un développement de l'enfant, la préparation au temps scolaire quelques années plus tard. Tout ça, ça fait partie de notre politique d'accueil des enfants dans les crèches départementales du Val-de-Marne.
Finalement, sur ces crèches, on le voit donc là, beaucoup de demandes, peu de taux d'acceptation. Est-ce que c'est une crise qui a toujours existé? Est-ce que c'est structurel ou est-ce qu'au contraire, ça fait seulement quelques années?
Alors, il n'y a pas une garantie de trouver une place. Mmh. Et en même temps, ce qui est très important de regarder, c'est de quoi un enfant a besoin. L'accueil collectif n'est pas toujours la solution. Parfois, un bébé a besoin de beaucoup plus d'attention, un bébé a besoin particulier, ou un tout petit a besoin de plus d'attention, et un accueil individuel sera une meilleure solution. Mais on n'a jamais atteint 100% d'accueil pour chaque enfant. Mais ce qu'il faut regarder, je suis totalement en accord avec vous, c'est la qualité. C'est bien avoir une place, mais il faut savoir quelle est la place, où. Comment on va accueillir mon bébé? Dans quelles conditions? Et c'est le ratio enfant-professionnel, le nombre d'enfants par professionnel est très très important. C'est le premier indicateur de qualité dans l'ensemble des pays du monde. Et ce que nous dit la littérature scientifique, c'est que le bébé, il a besoin d'une relation individuelle pour se construire. Et ça, il faut l'offrir dans toutes les structures d'accueil. Et c'est de ça dont ont besoin aussi les professionnels pour bien travailler auprès des enfants.
Vous parliez de 81 structures dans le Val-de-Marne. Mmh. Il s'agit de structures publiques.
Oui, absolument.
Il s'agit de structures publiques. Et avec quel taux d'encadrement, justement, dans ces crèches?
On respecte évidemment à la lettre la réglementation. Donc, c'est une professionnelle pour 5 enfants lorsque ce sont des tout-petits, et une professionnelle pour 8 enfants lorsque ce sont les plus grands, ce qui fait une moyenne autour d'une professionnelle pour 6 enfants. C'est le taux d'encadrement réglementaire. Et effectivement, l'enjeu que nous avons aujourd'hui, c'est de pouvoir recruter davantage de professionnels. Moi, je veux les saluer, les 450 agents auprès d'enfants du conseil départemental qui font un travail formidable, mais qui ne sont effectivement pas suffisamment nombreuses. Nous rencontrons, comme partout en France, toutes les communes également, mais partout sur le territoire, des difficultés d'attractivité de ces métiers. On y travaille d'arrache-pied. On intègre chaque jour de nouvelles professionnels. Et effectivement, leur travail a tellement de sens qu'il faut aussi leur donner des possibilités d'avoir cette relation individuelle et donc de travailler dans les meilleures conditions. Et c'est ce qu'on s'efforce de faire dans les crèches départementales dans le Val-de-Marne.
Et elles sont bien réparties, ces crèches, sur le territoire Val-de-Marne?
Oui, elles sont réparties très équitablement sur le territoire. Toutes les communes n'en sont pas dotées, mais toutes les communes ne font pas non plus la même taille. Il y a des crèches départementales à proximité de toutes les communes. Et puis encore une fois, il y a d'autres modes d'accueil que nous encourageons et que nous formons, comme les assistantes maternelles.
Mmh. Alors en Ile-de-France, selon le mode d'accueil, il existe de grandes disparités sur le territoire. Par exemple, concernant les assistantes maternelles, l'Essonne et la Seine-et-Marne sont mieux dotées que le reste des départements, qui est très sous-dotés par ailleurs. Sur les crèches, Paris et les Hauts-de-Seine, ainsi que les Yvelines, comptent sur une très bonne capacité d'accueil. Elle est plutôt moyenne pour le Val-de-Marne et l'Essonne, et elle est même faible pour les trois derniers départements franciliens. Comment est-ce qu'on explique un peu ces disparités sur le territoire francilien?
En fait, c'est assez culturel. Les territoires se sont développés avec des besoins des parents et forcément de leur bébé, et les modes d'accueil se sont mis en place en fonction des besoins. Et puis il y a des préférences
en fonction de ce que demandent les parents.
Oui, en fonction de ce que demandent les parents. Et puis il y a des spécificités. Par exemple, en Bretagne, il y a beaucoup plus d'accueil individuel que dans les autres régions. Voilà. Mais les parents bougent, changent de région, et finalement on s'attend à ce qu'il y ait une équité en termes de solutions d'accueil, individuelles et collectives. Mais toujours regarder quand même les besoins des enfants, parce que tous les bébés n'ont pas les mêmes besoins, et adapter le mode d'accueil est très très important.
Par ailleurs, si vous permettez, vous avez dit le Val-de-Marne est dans une situation moyenne. Il y a des...
Concernant les crèches, ce n'était pas forcément le cas.
Mais sur les crèches, vous avez des départements et puis même des territoires qui ont fait le choix d'avoir une offre privée assez importante ou parce que c'est rentable pour les entreprises d'aller s'implanter à ce niveau-là. Mmh. La politique de la petite enfance est plutôt une compétence des mairies. C'est plutôt les mairies qui développent des crèches municipales. Le Val-de-Marne a fait le choix de garder une offre départementale extrêmement forte. Pourquoi au fond ? Parce qu'on croit au service public de l'accueil de la petite enfance et on est assez convaincu que ça peut être le rôle d'un service comme le conseil départemental de proposer ce mode d'accueil pour au moins deux raisons. Avoir des modes de garde en quantité suffisante, c'est permettre à des parents, et notamment des mamans, vous l'avez dit dans votre introduction, d'aller travailler. Et donc, comme on croit profondément à l'emploi dans toutes nos politiques sociales dans le département, eh bien, leur proposer des modes de garde, sinon, ils sont freinés, c'est comme ça qu'on dit, par les problématiques de garde d'enfants. Et la deuxième raison, c'est que c'est aussi l'occasion de faire une place à des enfants qui ont des besoins spécifiques. Mmh. Aujourd'hui, 20% de nos places d'accueil, elles sont réservées à des enfants qui ont des besoins spécifiques. Ce sont des enfants qui sont porteurs d'un handicap ou dont la famille est touchée par cette problématique du handicap. Et voilà, donc ça permet de donner des chances équitables à tous les enfants. Et c'est pour ça qu'on a investi sur ces modes de garde collectifs.
Ce que comprennent pas bien les parents, souvent, hein, c'est le système d'attribution des places aussi, hein, qui est souvent assez opaque, notamment dans le secteur public. Comment ça se passe dans le Val-de-Marne ?
Alors, très simple.
Il y a des parents Val-de-Marnais qui nous regardent.
Bien sûr. ce qu'ils doivent savoir, c'est que la capacité d'accueil des crèches départementales ne permet pas de répondre positivement à toutes les demandes. Il faut se le dire. C'est pour ça qu'il y a quantité d'autres modes de garde, mais pas en nombre suffisant. Depuis qu'on a repris la gestion du conseil départemental en 2021 avec Olivier Capitagno, on a posé une règle simple. La grande majorité des places doivent aller à des familles dont les parents travaillent. Ce n'était pas forcément le cas avant, mais ça paraît extrêmement logique. Donc 60% des places, c'est pour des familles dont les parents ou le parent, si c'est une famille monoparentale, travaille. 20% des places, c'est pour les enfants, c'est pour les familles qui sont en cours d'insertion professionnelle. Mmh. 10% des places, c'est pour les enfants aux besoins spécifiques. Et puis on garde un volant de 10% de places qu'on fixe pas selon ces critères, mais qui peuvent répondre à des situations d'urgence. Et on en rencontre tous les jours un drame familial qui se passe et on a besoin d'accueillir un enfant pour une urgence. Donc voilà, c'est la répartition de l'attribution des places en crèche.
Et il y a des efforts à faire sur ce côté un peu système d'attribution, parce qu'on a l'impression que souvent les parents, ils sont un peu perdus.
Bien sûr, et c'est très difficile de confier son bébé, et surtout qu'on doit prendre cette décision avant même qu'il arrive. Mmh. Donc c'est doublement difficile. Parce que je pense que les parents, quand on les interroge, ils nous disent qu'ils ont besoin d'être rassurés sur la qualité d'accueil dans les structures. Et je comprends bien ce que vous dites. Et bravo, merci de travailler dans ce sens. Les professionnels ont besoin d'être très, très bien formés au développement de l'enfant et de tous les enfants. Quand on accueille des enfants extraordinaires qui sont porteurs de handicap, mais qui développent d'autres talents de façon extraordinaire, on a besoin que les professionnels soient formés à cet accueil-là. On va pas les accompagner dans leur développement de la même façon qu'on accompagne les autres. Donc l'attribution des places, elle est liée à la qualité de la formation et à la mise à jour des formations des professionnels de la petite enfance, parce qu'un enfant aujourd'hui, il vit pas dans le monde d'hier. Notre société est très, très particulière, a très, très vite changé. Et ça, j'insiste beaucoup sur ce sujet. Mettre en place des formations de qualité en formation initiale, en proposant la mise à jour de ces contenus sur le développement de l'enfant à tous les professionnels qui sont formateurs eux-mêmes, et se former tout au long de la vie, parce que c'est fascinant, un bébé, mais il faut pouvoir accompagner et répondre à ses besoins, parce qu'un bébé seul n'existe pas.
Alors, il y a eu une loi du 29 juillet 2022 qui disait des personnels qui dit finalement que des personnels sans diplôme peuvent être recrutés dans des endroits avec une forte pénurie. Est-ce qu'on ne risque pas des dérives ?
Mais oui, c'est double peine. Parce que ces professionnels sont perdus dans les structures, ils ne connaissent pas les enfants, ils peuvent faire des erreurs fondamentales. On a vu des dérives qui ont entraîné la mort de bébés. Et en plus, pour le personnel qui les accompagne, soutenir les pratiques professionnelles de quelqu'un qui n'est pas professionnel, ça prend beaucoup de temps, il faut beaucoup de disponibilité, et déjà, on n'en a pas suffisamment. On a vu des ratios qui, quand même, ne correspondent pas aux besoins des enfants. L'harmonisation européenne ferait qu'il y ait un professionnel pour trois ou 4 enfants maximum dans les structures d'accueil.
C'est-à-dire qu'en France, il y a le professionnel de la petite enfance s'occupe de plus d'enfants que dans d'autres pays européens.
Oui, que la moyenne européenne, exactement. Donc il y a un retard à rattraper et c'est des fonds d'État qui doivent être ciblés sur ce premier indicateur de qualité qui est ce temps passé individuellement avec l'enfant qui est possible quand le ratio est favorable.
Paul Bazin.
Juste apporter, parce qu'on est d'accord sur énormément de choses, juste un petit bémol sur cette histoire de recruter des personnes qui n'ont pas forcément le niveau de diplôme qui est requis. Si c'est fait de manière ponctuelle, c'est-à-dire pour couvrir des besoins ponctuels, si c'est fait, et vous avez parfaitement raison, de manière à ce qu'il y ait une forme de tutorat au sein de la crèche, donc il faut y mettre les moyens et reconnaître le rôle de tuteur de la professionnelle.
Mmh. Et si c'est fait, lui laisser du temps pour
le exactement, lui laisser du temps pour le faire. C'est beaucoup de tutrices. Et puis surtout, si ça la fait rentrer, la personne qu'on vient de recruter, dans un parcours où elle va pouvoir ensuite développer des compétences, voir ses compétences reconnues, valider ses acquis de l'expérience pour obtenir le diplôme en question, ça a du sens. Et pourquoi, sous ces conditions-là, ça a vraiment du sens. Et on est face à une telle crise de vocation des métiers de la petite enfance, dans les crèches comme dans les accueils individuels d'ailleurs, qu'on a vraiment besoin d'explorer toutes les manières de faire venir des personnes dans les crèches pour voir ce qui s'y passe, pour voir la qualité de l'accueil dans nos crèches départementales, de ce qu'on essaye de faire pour les parents, pour les enfants, susciter ces vocations et faire en sorte qu'un maximum de jeunes gens et de moins jeunes gens en reconversion se disent oui, ça a du sens ce métier-là et j'ai envie de l'exercer pour le bonheur des enfants et des parents.
Nathalie Kassovic-Arigny, avec ces endroits où il y a tant de pénuries de personnel, finalement, est-ce que ce n'est pas une bonne chose aussi qu'on puisse lancer des personnes dont ce n'était pas forcément la vocation ?
Alors, si les conditions sont réunies, oui, mais souvent, elles ne sont pas réunies. Et je dirais, dans 99% des cas en France, peut-être dans le Val-de-Marne fait exception et peut mettre en place du tutorat. En tout cas, l'association Ensemble pour la petite enfance a cette vocation d'accompagner tous les professionnels de la petite enfance dans l'accueil individuel et collectif pour bien connaître le développement de l'enfant et donner du sens au métier. C'est très très important.
Justement, quelles conséquences ça peut avoir pour les enfants ce manque de professionnalisme peut-être de certains ou certaines qui n'auraient pas eu cette formation?
Ouais. C'est d'augmenter la perte de chance et de creuser les inégalités. Quand un enfant, il a besoin de développer son plein potentiel, c'est comme ça qu'il apprend le monde. Il va tester, il va expérimenter beaucoup de choses. Mmh. Et l'impact environnemental dans ces 1000 premiers jours est très très important. C'est-à-dire, tout ce qui va se passer dans l'environnement d'un bébé va avoir de l'importance. Si le professionnel ne connaît pas le développement, il va passer à côté de certaines chances. Mmh. Motrice, cognitive, sociale, développement des compétences sociales, c'est le socle du développement global. Si le professionnel n'est pas formé ou va accueillir un enfant extraordinaire et ne va pas savoir le soutenir dans ses capacités et dans ses autres capacités aussi à développer, eh bien, c'est une perte de chance pour l'enfant, une perte de chance pour un enfant, c'est une perte de chance pour la société.
Selon les chiffres du début de l'année, dans les crèches du départemental du Val-de-Marne, il manquait 229 postes, ce qui entraînait donc la fermeture de certains berceaux, près d'un cinquième des berceaux. Qu'est-ce qui est fait pour donner envie à des personnes d'exercer ce métier, qui est par ailleurs extrêmement difficile, mal payé ?
Alors, c'est vrai, on a un problème de pénurie de personnel et du coup, un ensemble de berceaux sont fermés. On est en train de remonter la pente depuis quelques mois. La pente était terrible depuis 2019, donc même avant le Covid, avant qu'on arrive aux affaires en Val-de-Marne, avait démarré cette pénurie de personnel et cette fermeture de berceaux. On est enfin, depuis quelques mois, grâce aux actions que je vais détailler, en train de remonter la pente et de rouvrir de nouveaux berceaux. On a agi sur quantité de fronts, mais beaucoup sur nos méthodes de recrutement. On recrute beaucoup plus vite. On s'assure qu'on recrute selon des critères quand même stricts, mais on va beaucoup plus vite pour dire à une personne, vous êtes intéressé par ce métier, venez regarder ce que ça donne dans une crèche, venez vous immerger dans une crèche départementale, venez voir ce que ça donne, et ensuite dites-nous si vous souhaitez postuler. On va plus vite dans nos recrutements. On a développé très fortement l'attractivité du poste. On paye beaucoup mieux, on paye mieux par exemple, que la ville de Paris. Aujourd'hui, on paye 2300 euros en début de carrière, c'est 300 euros de plus que la ville de Paris. On a reconnu la pénibilité du travail d'une professionnelle en crèche par des jours de congé supplémentaires qui sont octroyés à ces personnes pour qu'elles se reposent. Bref, on a amélioré les conditions de travail.
Donc on commence à 2300 euros quand on...
On
commence à 2300 euros si on travaille donc dans une crèche départementale du Val-de-Marne.
En rémunération brute mensuelle, on commence là.
En rémunération.
Surtout, on a travaillé sur le contenu de l'accompagnement et la formation des personnels. Le contenu de l'accompagnement, ça veut dire, encore une fois, c'est pas un mode de garde, c'est un mode de développement de l'enfant. Et donc, on a organisé des initiatives autour du langage, autour du développement des sens, autour de la motricité, année olympique, autour du sport, enfin du développement de la motricité de l'enfant. Bref, on leur a donné les clés pour qu'elles fassent énormément d'initiatives dans la crèche, qu'elles créent un projet de crèche, qu'elles se retrouvent ensemble pour le développement de l'enfant. Ça aussi, ça participe à l'attractivité. Et puis, dernier élément, on a développé notre offre de formation continue des professionnels des crèches. On a un centre de formation qui leur est dédié et qui permet qu'elles se forment tout au long de leur carrière.
Donc au sein du département,
il y a un centre de formation des professionnels.
Mohamed Mokrani est en direct par visio avec nous ce soir. Bonsoir, vous êtes directeur des ressources humaines pour l'entreprise de crèches privées, les Petits Chaperons Rouges. Merci d'être en direct. Dans les crèches privées aussi, le recrutement du personnel, c'est un problème.
En effet, oui, on subit de plein fouet cette pénurie de professionnels en crèche. Vous savez, il y a 10 000 postes qui ne trouvent pas preneur aujourd'hui. Donc, on est exactement dans la même situation.
Au niveau national, je précise.
Au niveau national, bien sûr. On est exactement dans la même situation. Donc, le challenge d'attractivité est le même pour nous.
Vous avez décidé d'ouvrir une formation pour tenter de recruter plus facilement, c'est bien ça ?
Alors en fait, on a décidé par le biais de notre CFA d'ouvrir un institut de formation des auxiliaires de puériculture, qui est un programme de formation qui est dédié pour le moment à nos personnels internes. Donc par le biais d'un cycle de formation de 12 mois, on délivre le diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture. En prenant nos salariés en interne, donc ça leur donne des possibilités d'évolution au sein de l'entreprise et de développement de leurs compétences. Et ça leur permet aussi de se projeter dans la durée dans l'entreprise, puisqu'à l'issue de la formation de 12 mois, non seulement ils obtiennent le diplôme d'état d'auxiliaire puériculture, mais en même temps, il y a un job à la clé, à moins de 45 minutes de leur lieu d'habitation.
Des diplômes donc que ces salariés en interne n'avaient pas.
Non, ils venaient principalement de deux types de formations. Pour une partie, c'était des personnes qui avaient un CAP d'accompagnement éducatif petite enfance, donc le CAP AEPE, et les autres, un bac pro d'accompagnement soins services à la personne. Donc on a en effet par ailleurs des personnes qui sont diplômées AP ou éducateurs de jeunes enfants, infirmiers, on a des personnels diplômés, mais ce qu'on a décidé de faire en interne, c'est de se donner les conditions de diplômer les personnes au sein de notre IFAP. Des personnes qui n'étaient pas diplômées.
Qui sont les formateurs, les formatrices ?
Alors, on vient juste de démarrer, puisqu'aujourd'hui, on est dans l'inauguration. Je ne sais pas si vous entendez le bruit, mais il y a un petit peu la fête à côté. On est dans l'inauguration de notre IFAP. On démarre cette année avec 44 personnes qui vont faire ce cycle de 12 mois. À la fin de la première année, on montera à 88 personnes. Et la troisième année à 135, sachant que la cible, c'est d'arriver à 500 et de faire en sorte que ça ne soit pas uniquement des personnels des Petits Chaperons Rouges, mais que ce soit également ouvert à l'ensemble des personnes qui sont intéressées par le monde de la petite enfance. Nous, on reçoit à peu près 15 000 CV très régulièrement, tous les mois, de personnes qui sont intéressées par ces métiers. Mais la barrière à l'entrée, c'est le diplôme. Parce que tout à l'heure, vous l'avez dit, il y a une qualité de soins à apporter aux enfants, de développement des enfants. Et sans le diplôme, on n'est pas en capacité de garantir ce soin. Chez les Petits Chaperons Rouges, on ne recrute pas sans diplôme.
Votre entreprise était tout de même visée par l'enquête de deux journalistes intitulée Bay Business, notamment sur l'affaire d'un petit garçon qui avait été retrouvé blessé dans un établissement d'Aubervilliers. Il n'y a pas un problème justement de cadence et de manque de moyens imposés au personnel ? Est-ce qu'il ne fallait pas plutôt investir dans cela ?
Alors, on investit également dans nos personnels et dans la qualité. Je ne vais pas commenter ce que vous dites. Je pense qu'on est une activité on a 9 700 salariés. Il y a des incidents. Ces incidents font l'objet d'investigations et d'actions de notre part. Notre sujet, ce n'est pas de se dire si, qu'il y ait ou non des incidents. Il y en a, mais c'est de les traiter le plus vite possible et d'apporter immédiatement les réponses les plus fortes et les plus fermes sur ce sujet. Il est hors de question qu'un enfant ne soit pas traité de la meilleure des manières au sein d'une de nos structures et qu'on ne développe pas ce niveau de qualité optimale qui est attendu de tous et qui est la vocation de notre entreprise.
Donc aujourd'hui, c'est une personne pour 5 à 6 enfants. C'est à peu près comme les crèches publiques aussi pour l'encadrement.
Le cadre légal est exactement le même. Donc une personne diplômée pour 5 enfants non marcheurs et une personne pour 8 pour les enfants qui marchent. Le cadre est strictement le même en fait. On opère tous avec les mêmes diplômes, les mêmes règles et les mêmes types de contrôles. On est même par ailleurs en général beaucoup plus contrôlés que des structures municipales. Donc ayez confiance dans vos autorités de tutelle parce qu'elles savent nous challenger et on le fait nous également en interne puisqu'on a aussi développé des processus d'audit interne qui nous permettent aussi d'être certains qu'on délivre à chaque fois le bon niveau de qualité de service.
Avec ces 500 personnes formées à la clé, vous espérez pouvoir donc ouvrir de nouvelles places ?
On a en effet une stratégie de développement puisqu'on pourrait en effet, si on avait les personnels qualifiés, ouvrir plus de places demain et répondre finalement aux besoins des parents puisque vous le savez, en France, l'accompagnement de la parentalité, c'est un terrible challenge. Donc notre vocation, c'est d'accompagner la parentalité. Donc oui, en effet, dès qu'on sera en capacité d'avoir des personnels formés, motivés, engagés dans l'entreprise, on sera aussi en capacité à la fois de remplir les postes qui actuellement restent ouverts, et il y en a beaucoup, on recrute, mais également de continuer à nous développer et de prendre notre part du sujet, puisqu'on n'est pas le seul opérateur, hein, c'est ce sur quoi vous échangez depuis tout à l'heure, on n'est pas le seul opérateur, mais on est un des acteurs et on est l'acteur de référence en ce qui concerne les crèches privées.
Merci beaucoup Mohamed Mokrani d'avoir été en visio avec nous ce soir. Vous êtes donc directeur des ressources humaines de l'entreprise de crèche privée Les Petits Chaperons Rouges. Justement, ces initiatives de crèche privée pour former du personnel, c'est une bonne chose selon vous ?
Ce qui est une bonne chose, c'est d'agir dans l'intérêt de l'enfant. C'est ma question.
Ah, c'est-à-dire ?
Voilà. On est animé par quelle intention ? Si l'intention est celle d'agir dans l'intérêt de l'enfant, c'est-à-dire mettre en place les conditions favorables pour un développement le plus harmonieux possible, oui.
On l'avait vu, hein, il y avait une commission parlementaire à la suite de ces enquêtes dont j'ai parlé hein, sur les crèches privées. Vous aviez d'ailleurs été entendu à l'Assemblée nationale.
Absolument.
Qu'est-ce que vous aviez répondu justement à cette commission parlementaire ?
Eh bien, ce qu'attendait de moi et de mon association Ensemble pour la petite enfance, cette commission d'enquête, c'était de comprendre quels sont les besoins des bébés et de s'ajuster en fonction d'eux. Un pays qui s'occupe bien de ses enfants, c'est un pays qui va bien et qui perdure dans ses bonnes pratiques. Donc l'intérêt majeur, c'est celui-ci. On ne s'occupe pas de bébés comme on fabrique des petites boîtes.
Pour cela, il faut davantage payer ces auxiliaires de
puériculture. Il faut mettre en place des conditions favorables, notamment les nourrir, parce que c'est ce qu'elles souhaitent, de toutes ces connaissances à jour, scientifiques, absolument fascinantes sur le développement des bébés. Et c'est revaloriser la profession et donner du sens au métier et évidemment les considérer.
Ouais. Merci beaucoup Nathalie Cassovi-Carini, fondatrice et déléguée générale de l'association Ensemble pour la petite enfance, vice-présidente du Conseil français des associations pour les droits de l'enfant et co-auteur donc avec le docteur Boris Cyrulnik de Là où tout commence. Merci beaucoup Paul Bazin également d'avoir été avec nous, premier vice-président du département du Val-de-Marne en charge de la solidarité et de la petite enfance. Je me dépêche parce qu'on est un petit peu en retard. Évidemment, l'information se poursuit sur BFM Paris Île-de-France.